ne se limite pas au simple rituel. Parce que la pire des choses serait d'arriver à une situation où on accomplit des ibadah, des actes d'adoration, mais on ne réalise même pas la portée de ce rituel. Et que cela se limite à quelque chose qu'on va faire, on va répéter, sans qu'il n'y ait de ruh. Il y a dans Riyad al-Salihin, on lisait le commentaire d'Ibn Uthaymin, rahimahullah, sur le verset « قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةً أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَا وَفُرَادَ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا » Il a fait un commentaire de « ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا » Allahu Akbar. Dit qu'au départ, il y a le ibadah, l'acte d'adoration que le mu'min se doit d'accomplir. Mais après l'accomplissement du ibadah, « ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا » méditer sur ce que ce ibadah nous apporte. Et il a donné deux exemples, et on va se suffire d'un exemple avant de commencer notre darj de ce soir. Il a donné l'exemple de la salah, et il a cité deux objectifs de la salah. Et parmi ces deux objectifs, il y a un qui est plus connu, « Inna salat tanha anil fahsha wal munkar » que la salah éloigne du turpitude et du blâmable. C'est-à-dire que cette salah doit normalement nous donner la force spirituelle pour résister au péché, et cette force spirituelle pour accomplir les bonnes actions. Donc, cher, il dit que lorsque tu as complété une bonne action, réfléchis, quel est le pourcentage de cet objectif que tu as concrétisé? Est-ce que tu as obtenu une partie de cette force spirituelle? Elle dit, ne sois surtout pas ce croyant qui va cumuler, justement, comme on a dit en introduction, qui va cumuler les actes d'adoration sans même réfléchir à l'apport spirituel. C'est-à-dire que al-raya, la finalité n'est pas d'accomplir le ibad. L'accomplissement de l'acte d'adoration, on peut dire que c'est un devoir, quand il s'agit de quelque chose qui est faras, bien sûr. Mais au-delà de l'accomplissement du ibad, il faut chercher le flux spirituel, ce que cela nous apporte, et la vraie relation avec Allah que nous devons créer à travers le ibadah. Et Cheikh insiste beaucoup sur les bases, c'est-à-dire sur la sourate Fatiha par exemple. Essaie, ô croyant, de vivre au mieux ta sourate Al-Fatiha. Je ne sais pas si chaque personne présente, vous avez déjà eu l'occasion d'étudier le tafsir de la sourate Al-Fatiha, Sab' al-Mathani. C'est 7 versets magnifique, qui résume notre relation avec Allah, qui résume le Coran bien sûr, qui résume notre relation avec Allah, et qui doit normalement donner un sens à nos prières, à nos ibadahs, à notre salat, qui doit donner un sens à notre salat, mais à nos ibadahs d'une façon générale. Notre relation avec Allah, Azza wa Jal, elle trouve son sens dans Al-Fatiha. Et donc, Cheikh insiste sur les phrases, les versets clés de la surat Al-Fatiha, « Iyaka na'budu » وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Elle dit, combien de fois il t'est arrivé dans la prière de la nuit, lorsque tu lis la sourate Al-Fatiha, de répéter sans arrêt إِيَّاكَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ. Dans une salat obligatoire, on ne peut pas le faire, mais dans une salat comme la salat Qiyam al-Layl, et de ressentir vraiment le sens profond de إِيَّاكَ نَعْبُدُ. Parce que إِيَّاكَ, c'est Al-Hasr, c'est l'équivalent de Illa. Illa, c'est uniquement l'exception. Iyaka, c'est attester que c'est uniquement toi, Na'budu, que nous adorons. C'est uniquement pour toi que nous voulons le culte. Mais essaie de le répéter avec insistance jusqu'à ce qu'à un moment donné, ton cœur se remplisse de ce sens. Et tu réalises que en prononçant le verset Iyaka Na'budu, tu es en train de concrétiser l'objectif de ta création qui est Wa ma khalaqtul jinn. Mais c'est un tafsir qui est puissant, c'est rempli de sens, c'est simple, c'est accessible à tout le monde, mais est accessible à nous avant tout. On peut le mettre en pratique dès ce soir, mais ça te donne vraiment la compréhension saine du sens de l'ibadah, et ça te permet de réaliser que parfois nous cherchons la perfection dans certaines choses alors que nous passons à côté d'eux. Ce qui est essentiel, c'est Iyaka na'budu. Et de ressentir que quand tu es debout devant Allah, tu attestes que Ya Allah, j'ai été créé pour ton adoration. Illa li'abudun. Et là, à cet instant, lorsque je dis Iyaka na'budu, je suis dans le vrai. Je suis dans le haq. Je suis en train d'affirmer le but pour lequel, ya Allah, tu m'as créé. Et quand tu dis, wa yaka nasta'in, mets tous tes problèmes au-dessous de, wa yaka nasta'in. Mets toutes tes difficultés, tout ce qui te chagrine, tout ce qui te cause des problèmes, tout ce qui te donne l'impression d'avoir des blocages dans ta vie, tout ce que tu vois comme ibtila, comme difficulté, comme épreuve, mets tout ça sous wa iyyaka nasta'in. Mets l'objectif de ta vie sous iyyaka na'budu et l'essentiel de tes problèmes sous wa iyyaka nasta'in, et avec ça tu peux avancer. Et avec ça, tu donnes un sens à ta relation avec Allah et tu donnes un sens à tout ce qui peut t'arriver dans ce dunya. Et en finalité, tout c'est iyyaka, c'est vers toi, c'est uniquement toi. C'est vraiment l'orientation unique vers Allah Azza wa Jal. Mais est-ce qu'on arrive à le ressentir, ça? On peut lire iyyaka na'budu de façon mélodieuse, différentes lectures, une voix, mashallah, avec des imams qui ont des talents de Qurra, walhamdulillah, tout ça ce sont des ni'mas. Mais est-ce qu'une fois au moins on essaie de le ressentir? On lisait récemment dans notre commentaire, parfois il y a tellement de lectures qu'on n'arrive plus trop à situer, mais ça reste, je vous rassure, de sources authentiques. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, expliquait quel était son quota de qira'a, quel était son quota de lecture de le qiyam al-layl, de la prière de la nuit. J'ai plus les chiffres en tête, le texte, le nas exact. Il expliquait qu'il lisait telle portion du Coran dans la prière de la nuit. Et puis il dit qu'au fur et à mesure, il a commencé à diminuer la portion de lecture, la quantité qu'il lisait. C'est pas qu'il a diminué le nombre de rak'at, la wallah. Il a diminué sa lecture jusqu'à arriver à se concentrer sur une sourate ou deux, mais qu'il les répétait, qu'il le répétait, qu'il le répétait sans cesse, mais avec cœur, avec dévotion, avec implication, et il ressentait vraiment la puissance des ayat, la puissance des versets. Ça, c'est ce qu'on appelle halawatul iman, la douceur de la foi. Il y a un décalage entre kathratul ibada, entre augmenter le nombre de bonnes actions, et halawatul iman, la douceur de la foi. La douceur de la foi, on peut l'obtenir dans deux unités de prière, mais qui sont faites avec dévotion, où on a créé vraiment une connexion avec Allah, et qu'Allah Rabbul Izzat à sa clément nous accorde un jour cette qualité. Et quel est le secret pour avoir halawatul iman, pour pouvoir ressentir chaque verset que tu lis dans la salah? Quel est le secret? Qui sait quelle est la réponse? Aïwa, barakallah fik, l'éloignement des péchés. Dans un hadith dans le prophète alayhi salatu wassalam nous cite un exemple, et cet exemple, et là c'est la hikmah nabawiyya, c'est la sagesse prophétique, et c'est وَمَا يَنْتَقُوا عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. C'est Allah Rabbul Izzah qui inspire le prophète alayhi salatu wassalam. Quel exemple donné aux sahaba et à l'ensemble des croyants? Il a cité en exemple le péché qui est le plus accessible, le péché envahissant par excellence, et pour lequel il faut un effort considérable, un effort spirituel considérable pour s'éloigner de ce péché. C'est itlaqul basar, le fait de regarder, le fait de ne plus avoir de contrôle sur son regard. Et itlaqul basar, c'est le contraire de raddul basar, de contrôler son regard. Et le prophète a dit que la personne qui, d'une façon générale, d'abord il a dit, de façon générale, la personne qui abandonne un haram pour Allah, man taraka shay'an lillahi, a'awadahu Allah khayran minhu. Celui qui abandonne un interdit, lillah. Et ce terme lillah, ça nous ramène vers al-ikhlas. Ça nous ramène vers tawhid, l'unicité d'Allah. Et lillah, le tawhid, c'est la base. Je pense que c'est vraiment nos grandes maladies spirituelles. Ce qui nous manque à nous, c'est le tawhid. C'est l'unicité d'Allah. C'est amantu billah. C'est connaître suffisamment Allah Azza wa Jal. Et le fait que nous concentrons énormément sur, par exemple, le ta'lim, sur le tahfiz, l'enseignement du Coran, sur tout ce qui, mashallah, fait un peu notre fierté, mais malheureusement, nous passons à côté de l'essentiel, c'est l'aqidah sahiha, la croyance authentique et pure, et cela commence par la première branche de la foi, amantu billah. nous ne connaissons pas suffisamment Allah. Ce qui fait que dans notre relation avec Allah Azza wa Jal, on va dire que c'est une relation qui reste malheureusement superficielle. Ce qui fait que l'exemple que le prophète alayhi salat wa salam nous a donné, man taraka shay'an lillah, le terme lillah, on a du mal à l'intégrer. J'arrive à man taraka shay'an li shahri ramadan, ça j'arrive à le faire. Abandonner un péché pour Allah et uniquement pour Allah. C'est-à-dire qu'il ne regarde ni le lieu, ni l'espace, ni le temps. C'est pas parce que tu as Makkah que tu abandonnes le péché ou que tu as Madina. C'est pas parce qu'on est dans le mois de Ramadan. C'est pas parce qu'on est de la première décade de l'Hijja. C'est pas parce que on est dans telle période de l'année que tu dis que non, là, je m'abstiens du péché. Oublie, pas oublie tout ça, mais ne regarde pas ces paramètres. Man taraka shay'an lillah, c'est-à-dire qu'uniquement pour Allah, sans limite de temps, sans qu'il y ait de paramètres pour abandonner ce péché. C'est uniquement par amour et par crainte d'Allah. Et c'est ce qui nous manque, c'est l'amour pour Allah et la crainte d'Allah. Mais celui qui arrive à s'éloigner, à prendre des distances avec un péché et comprendre un péché qui le tente, c'est-à-dire une fitna, un péché pour lequel il a un penchant, il se dit que non, je ne le fais pas parce que j'aime mon Seigneur. Je ne peux pas me permettre d'être ingrat envers lui, alors qu'il vient de me donner tawfiq d'accomplir la salat Isha, alors qu'il m'a donné tawfiq d'avoir iman en lui et toutes les ni'amas. Ben ça c'est vraiment qualité de foi. Man taraka shay'an lillah, ça prouve que dans ton cœur il y a Allah. Man taraka shay'an lillah, celui qui abandonne un péché pour Allah, ça veut dire déjà que dans son cœur il y a Allah. C'est pas que dans son cœur il y a salat, il y a saum, il y a hajj, il y a zakat, certes il y a ses actions, mais avant tout il y a Allah. Parce que toutes ces actions qu'on accomplit, elles sont orientées vers Allah. Et il nous manque Allah dans notre cœur. Donc, man taraka shay'an lillah, celui qui arrive à faire ce sacrifice énorme sur lui pour Allah, awwadahu Allahu khayran minhu. Allah lui accorde quelque chose qui est mieux que cela, mieux que ce que tu as délaissé. Et en commentaire, les mahadithis disent que lorsque le prophète alayhi salat wa salam s'avance en disant que awwadahu Allahu khayran minhu, c'est un jugement là. C'est un jugement, il veut dire que ce qu'Allah va te donner, c'est mieux. C'est qu'il a fait une comparaison, on pourrait dire, entre le plaisir que tu as abandonné et ce qu'Allah va te donner. Et quand il dit que cela vient d'Allah, awwadahu Allahu khayran minhu, c'est-à-dire qu'Allah t'accorde quelque chose qui vient directement de lui, c'est-à-dire que ce qu'il va t'accorder, ce n'est pas du dunya. C'est pas parce que tu es pieux que tu vas devenir riche. C'est pas parce que tu es pieux que tu vas forcément réussir ta carrière professionnelle ou ainsi de suite. Peut-être qu'Allah te l'accorde, peut-être qu'Allah ne t'accorde pas. Mais c'est pas ça le paramètre de réussite, de Kaboul. C'est pas ça le paramètre d'acceptation de la part d'Allah. Donc, quand le prophète dit qu'Allah t'accorde quelque chose de mieux, c'est quelque chose qui te sera profitable pour ta foi. C'est-à-dire qu'Allah va t'accorder une qualité qui te permettra de te rapprocher de lui. Et quel plus grand bénéfice que le bénéfice spirituel? Quel plus grand cadeau que le cadeau divin? Quelle plus grande ni'ma que lorsqu'Allah, comprenez la métaphore, te tend la main et te ramène vers lui? Allah te donne la possibilité de te rapprocher de lui à travers chaque ibadah. Et là je précise et je donne cet indice, à travers chaque ibadah. C'est-à-dire que chaque action que tu accomplis déjà, ben, c'est une action qui va te permettre d'atteindre un autre niveau de dévotion, de khushu', de concentration, d'implication, et tu vas ressentir quelque chose que tu ne ressentais peut-être pas avant. C'est ce qu'on appelle halawatul iman. Et dans un autre hadith, et là on va vers un exemple plus précis, Radhul Basar, le Prasam a donné cet exemple de celui qui contrôle son regard, que la personne trouvera cette douceur de la foi. Et la douceur de la foi, c'est exactement ce qui nous manque. La douceur de la foi, c'est être capable de créer une relation avec Allah à travers nos ibadah. Et puis il y a un enchaînement. Plus tu es proche d'Allah, plus tu es capable d'abandonner donc les péchés pour Allah. Qu'Allah Azza wa Jal, dans sa clémence, nous permet de combler nos manquements, nous permet d'être clairvoyant sur notre sa'i, sur notre parcours de ce dunya. Tout comme une personne fait un parcours entre Safa et Marwa, ben ce dunya c'est pareil. Ce n'est qu'un parcours. Et inna sa'iyakum la nashatta. Nos parcours sont différents. À nous de donner la meilleure orientation possible dans ce parcours. Et la solution se trouve également dans la sourate al-Fatiha. Quel est le doua que nous demandons pour avoir le meilleur des parcours ? Ihdina, ihdina. Mais quand tu demandes ihdina, pleure. Pleure, dis Allah ihdina, Allahumma ihdina, Allahumma ihdina, Allahumma ihdina as-sirat al-mustaqim. Pleure en demandant Allah Azza wa Jal al-thabat wal-istiqama, rester ferme sur le droit chemin. Yad al-Riyad al-Salihin, on lisait un verset, un hadith, Allahu Akbar, qui nous donne des frissons. C'est pas un hadith, mais c'est un verset pour introduire le chapitre Bab al-Istiqama, Bab al-Azim. Un chapitre extraordinaire, exceptionnel, Bab al-Istiqama, la fermeté de la foi. Et Cheikh introduisait, c'est comme dans Riyad al-Salihin, tous les hadiths sont introduits par des versets. Et quel est le verset basique sur l'istiqama que tout le monde connaît? Qui me le cite? Le verset qui vous revient quand on parle d'istiqama. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Tafsir ajib. Tu attrapes ta tête en tes deux mains et tu dis ya Allah, c'est ça que je veux. Ça et rien d'autre. Et inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ça implique tellement de choses qui nous manquent. C'est inna alladhina qalu rabbuna Allah. C'est attester qu'Allah est notre Seigneur. Et quand tu dis rabbuna Allah, c'est pas uniquement un nutqu bil lisan. C'est al-iqrar bil qalbi wa an-nutqu bil lisan wal a'mal bil jawarih. C'est de ton cœur tu l'as attesté et que tu portes Allah de ton cœur, comprenez la métaphore, que tu fais toute la place nécessaire de ton cœur pour Allah. Connaître Allah, c'est iman billah, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Ensuite tu le dis, tu l'affirmes et tu continues à l'affirmer, à le demander, et ça se concrétise par les a'mal. Dit que inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma, c'est pas inna alladhina qalu rabbuna Allahu wastaqamu, c'est thumma. Et thumma, ça introduit quoi? Thumma, c'est une suite, barakallahu fik. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu au code arabe, toi. Il faut reprendre, inshallah. Thumma, c'est une suite, c'est un natija, un résultat. C'est-à-dire que si tu as rempli cette condition, ensuite ça va venir. Tant que iman billah n'est pas rentré dans le cœur correctement, l'istiqama ne suivra pas. C'est-à-dire que même si elle est a'mal, on n'a pas de garantie de istiqama, parce que ton cœur n'est pas encore attaché à ses a'mal. Ton corps l'est peut-être attaché. Ton corps, voyez la nuance, peut-être que ton corps est attaché à ce rituel. Depuis que tu as 14 ans, tu pries. Donc si un jour on te dit, fais pas Jum'a, c'est pas possible, parce que tu es habitué. Mais tu es habitué comme quoi, hein? Excusez-moi, c'est un jugement très cru, et je ne juge personne. Tu es habitué à prier, tout comme tu es habitué de manger gâteau à Youb le dimanche matin. Qu'Allah me pardonne, pas de jugement. Tu es habitué de prier tout comme tu es habitué de lire ton journal. Tu es habitué de prier tout comme tu es habitué d'aller au boulot et d'avoir tel rituel dans ton travail. Qu'Allah nous protège. C'est ce que Cheikh nous met en garde. Attention à tel niveau de rituel. On ne pense même plus qu'on est en train d'adorer Allah, mais c'est devenu une routine. Comme dans d'autres religions, il y a des rituels. Mais est-ce qu'à travers ce rituel, il y a une spiritualité? Il n'y a peut-être même pas de compréhension. Il n'y a pas de spiritualité réelle parce qu'il n'y a pas de ibadah haqq, si ce n'est l'adoration d'Allah. Donc on doit faire attention. Et donc, tant que ce Rabbunallah n'est pas entré dans le cœur n'est pas attaché au ibadah, même si le corps le fait régulièrement. Et lorsque, je vais un peu plus vite, lorsque le cœur maintenant est attaché, là il y a istiqama. Parce que ton cœur est amoureux d'Allah. Et donc ton corps est amoureux d'Allah et il veut faire tout ce qui est possible pour faire l'adoration d'Allah. Ça devient al-ghaya, ça devient l'objectif. Tu deviens waliyullah, un proche d'Allah. Tu deviens un proche d'Allah. Et là, le istiqama s'installe. Et quelles sont les récompenses? Atanazzalu alayhim al-malaika. Et quand est-ce que ces anges viennent? Cheikh, il explique que dans les moments cruciaux, dans les moments les plus effrayants, certains tafsirs parlent de ce dunya et du akhira. Cheikh, il va plutôt vers un tafsir de ce dunya. Il dit que le moment le plus effrayant pour un être vivant, c'est quoi? Mufarqatul haya. C'est lorsque l'âme doit quitter le corps. C'est lorsqu'on doit changer de monde, on doit retourner vers Allah. La mort. Et à cet instant précis, imagine, tu reçois la visite des malaïka. Meilleur des créatures d'Allah, la ya'sunallaha ma amarahum. Meilleur des créatures d'Allah. les plus grands ibadullah, les malaïkas, ils viennent te rendre visite. Au moment où tu as besoin d'assistance, au moment où toutes les personnes qui sont autour de toi, même s'ils te disent c'est pas grave, ça va aller, inshallah et tout, tu n'as rien à faire de leurs paroles, leurs encouragements et tout. C'est-à-dire que tu es déjà passé dans un autre monde, tu entends sans écouter. Et tu n'as plus de sentiment, mon petit-fils est là, ou mon enfant, ou ma femme, y a plus, ces personnes ne t'importent plus. Tes biens ne t'appartiennent plus. Dans le rarara, dans l'agonie, si tu dis que je donne mes biens pour la masjid, ça ne compte pas. Parce qu'à cet instant, on considère que tu n'es plus maître de tes propos, de tes paroles, de tes pensées. Et en finalité, tu n'es plus maître de tes biens. Tu as déjà un pied de l'akhira. Donc à cet instant où aucun encouragement, même pas du docteur, même pas de personne, n'est un quelconque apport, tu reçois la visite des malaïkas qui sont envoyés par Allah. Et ces malaïkas sont de la même, comment on pourrait dire, même alam, j'allais dire même créature, même espèce, même alam, même monde que celui qui vient reprendre ton âme. L'ange de la mort, ben, il est précédé de cette délégation de malaïkas. C'est-à-dire qu'avant de voir Malik al-Maut, c'est la pire des visions pour une créature que de voir l'ange de la mort. Sauf pour As-Salih, Allahumma ja'alna min as-Salihin. Pour lui, la vision de l'ange de la mort, c'est déjà une récompense de ce dunya. C'est déjà une récompense pour sa vie de fermeté de ce dunya. La vision de l'ange. Qu'Allah nous accorde cette vision d'un ange de la mort magnifique qui reprend notre âme, précédé de cette délégation. Tu reçois des anges qui t'annoncent la venue de Malik al-Maut. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Allah, deux phrases, deux encouragements. Et c'est vraiment de ça qu'on en a besoin. Allah, takhafu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur pour cette étape, mais également pour toutes les étapes jusqu'au Jannah. Voilà, tahzanou. Aucune tristesse, aucun chagrin. Pour ceux que tu laisses, pour ceux qui viennent passer, sache que tu as été accepté par Allah. La tarafu wa la tahzanou. Et après, ça c'est deux encouragements et une bonne nouvelle. Les deux encouragements, c'est pour maintenant et pour les étapes qui vont venir. Et puis, une nouvelle générale sur ce qu'Allah a décidé pour toi. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Vous voulez quoi de plus? L'ange, avant que tu quittes ce dunya, il te donne la bonne nouvelle. Abishara, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle. Abshiru bil jannah. Tu as encore de ce dunya, tu as encore tes parents ou tes enfants, ou ta femme, ou peu importe, autour de toi, et les anges te disent déjà qu'ils t'annoncent que le paradis t'est promis. Ça, c'est la mort du salih. C'est la mort de celui qui a dit, Rabbunallah, iman billahi dans le cœur, thumma staqamu. Comprenez qu'entre Rabbunallah et thumma staqamu, il y a les a'mal. C'est-à-dire, il a eu istiqama sur amantu billah, et istiqama sur les a'mal. Qu'Allah nous accorde vraiment cette qualité essentielle qui est iman billah, développer l'amour pour Allah. Et justement, pourquoi on a fait cette grande introduction, c'est en relation avec sifatul maghfira, qu'Allah est ghafour, et parce que nous allons voir quelques hadiths, on ne va pas être très long, on va voir quelques hadiths qui montrent le fond des sahaba, le socle spirituel des sahaba. On a des exemples de sahaba qui invoquent Allah par des formules simples que tout le monde connaît, mais ils le font avec cœur. Et au-dessus des sahaba, on a notre prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui demande l'istighfar sans arrêt, et qui laisse des sahaba entendre les formules qu'ils prononcent et le nombre de fois qu'ils prononcent. Ça doit être un choc pour nous. Une prise de conscience que Nabiullah, comment il demande l'istighfar avec ferveur? Et moi, depuis ce matin, aujourd'hui on est mardi, combien de fois j'ai demandé à Allah azzawajal l'istighfar? Mais pas l'istighfar rapide, astaghfirullah. L'istighfar qui vient du fond de ton cœur, j'allais dire de tes tripes, mais comprenez la métaphore, qui vient au fond, avec al-nadam, avec les remords pour tout ce qu'on a pu commettre comme péché, avec al-azm, avec l'intention ferme de ne plus jamais désobéir à Allah, la honte d'avoir désobéi à Allah, l'espoir, sachant qu'Allah est ghafour, c'est le thème du jour, la crainte qu'Allah peut sévir, peut punir. Ça, c'est le sirfar qui vient du fond du cœur, et c'est ça on a besoin. Si dans une journée je ne me suis pas livré à Allah, c'est une journée perdue. Excusez-moi, je m'avance. Les salats, on les fait, alhamdoulilah. Mais spirituellement, si une journée, tu t'es pas livré à Allah, tu n'as pas eu une conversation avec Allah qui vient du fond de ton cœur, où tu lui as demandé pardon, et Allah, je je sais. Faites-le dans votre langue, c'est beaucoup plus proche. Je reconnais. Maintenant, si on peut le dire en arabe, mais à condition de comprendre ce qu'on dit. Si tu peux ressentir le sayyid de l'istighfar, ça c'est al-qimma. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma sata'. Mais si on ne connaît pas le sens, autant le dire en français. À travers tes mots, mais tu le ressens. Plutôt que de dire une grande formule de 5 lignes sans le ressentir. Et donc là, si une journée s'est passée sans que j'ai été capable de me livrer, j'ai pensé à converser avec Allah et dire à Allah Azza wa Jalla tout ce qu'il y a au fond de mon cœur, ben, ma relation avec Allah, elle ne s'est pas renforcée dans cette journée. Et justement, quels sont les hadiths qui nous intéressent? Déjà, un hadith pour nous remettre dans le contexte de Al-Maghfira. Tout ce qu'on a pu expliquer avant les vacances, c'était des hadiths qui rappellent comment Allah est Ghafour Rahim. On ne va pas les rappeler parce qu'après on n'avancera plus à force de se rappeler les mêmes choses. Et dans le mois de Ramadan, on a eu l'occasion de faire un programme spécifique sur le Maghfirat d'Allah. Donc on a bien passé en revue ces hadiths. Un seul, pour nous remettre dans le contexte, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous dit un hadith, « Qudsi ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wa nahar » Et ça nous montre que c'est une religion qui est faite pour les hommes. Ce n'est pas une religion pour les malaïka. Ce n'est pas une religion perfectionniste. C'est une religion réaliste. Dans laquelle notre Seigneur connaît tabi'atun nas, connaît la nature de l'être humain, connaît al-fitra, connaît l'inéité, connaît nos penchants, nos erreurs, nos manquements. Où ce Seigneur est clément, où il nous annonce par des termes remplis de muhabba, d'amour, ya ibadi. Et après ibadi, qu'est-ce qui est cité? C'est pas des actions merveilleuses, c'est tourteouna, vous commettez des erreurs. Oh mes serviteurs, vous commettez des erreurs. Voyez la transition, voyez l'opposition entre le terme rempli d'amour et d'affection et le fait qu'Allah nous dit vous vous trompez tout le temps. Vous me désobéissez régulièrement, mais Allah le dit à travers le terme ya ibadi. On voit toute la clémence d'Allah Azza wa Jal dans sa façon de s'adresser à ses mu'min, à ses croyants. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wa nahar. Oh mes serviteurs, vous vous trompez, vous faites des erreurs nuit et jour. Et ça nous rassure que c'est Allah qui l'annonce, parce qu'Allah connaît notre fond. Et Allah Rabbul Izzah maintenant nous explique wa ana, et sachez que moi. Au départ, il y a Antum. Et Antum, c'est tous les êtres humains. Toute la Ummah à qui le discours s'adresse. Et après Antum, il y a Wa'ana. Et le seul qui peut dire Wa'ana avec Fakhar, avec fierté, avec Izzah, c'est Allah Azza wa Jal. Et Al-Aziz, c'est le prochain nom d'Allah qu'on va essayer d'apprendre, Inch'Allah. Et Allah Rabbul Izzah le dit Wa'ana. Et c'est lui seul qui peut dire wa ana aghfiru dhunuba jami'a, et moi je pardonne l'intégralité de vos péchés. Voyez comment ce hadith nous réconforte. Et Allah demande l'effort. C'est pas juste que vous commettez des erreurs et je pardonne. Certes, Allah est ghafur rahim, comme on a vu à travers une dizaine de hadiths. Et cette partie du hadith, la deuxième phrase wa ana aghfiru dhunuba jami'a, ça va de ce sens. Mais le pardon vient avec la demande de pardon. Et là, il y a la troisième phrase qui complète le hadith. Fastaghfiruni. Et le shem istafana, c'est là, la recherche. Fastaghfiruni. Recherchez mon pardon. Demandez-moi pardon. Aghfir lakum. C'est pas aghfiru. On a vu ça en arabe. Une demande. Et le verbe qui vient après, il est au majzoum. Fastaghfiruni aghfir lakum. Demandez-moi et je vous accorde mon pardon. Faites l'effort. Mais fastaghfiruni avec yaqeen, avec ilm, avec basira, avec les conditions du tawbatun nasuha. Et Allah promet aghfir lakum, je vous accorde mon pardon. Donc ce hadith-là, c'est pour nous remettre le contexte qu'Allah est ghafour rahim. Et comment le prophète alayhi salat wa salam demandez pardon. Leçon pour nous. On a un hadith de Aïcha radiallahu anha. Et pourquoi Aïcha? C'était la plus jeune. Et c'était celle qui a le plus observé les ibadahs du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est celle qui a le plus décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam physiquement, mais qui nous a le plus enseigné concernant les masa'il fiqhiyya et les sunan nabawiyya. Aïcha, elle enseignait aux grands sahaba tout ce qu'elle a vu du prophète alayhi salatu wassalam. L'amour et le respect, l'estime que nous devons avoir pour Aïcha, c'est sans limite. Maintenant, que dit Allah Musta'an, un de ces personnes qui critiquent Aïcha? Allah Rabbul Izzah leur accorde Hidayah ou réglera leur compte le jour du Qiyam. Donc Aïcha radiallahu anha, elle nous enseigne quelque chose, elle dit que Salla al-Nabi alayhi salat wa sallam a fait la salat de Shuruq du matin. Thumma qal, ensuite il a dit Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwab ar-rahim. Il n'y a aucune partie de ce doua qui nous est inconnue. Il n'y a pas un mot nouveau qu'on pourrait dire. Il n'y a pas un terme difficile. Allahumma ghfirli. Même si on n'est pas 100% arabophone, on comprend. Wa tub alayya. On comprend. Innaka anta at-tawwab ar-rahim. Demande de pardon parce que ya Allah, c'est toi qui es le pardonneur et c'est toi qui es le rahim, qui est clément, qui est miséricordieux. Hatta qalaha mi'at marra. Jusqu'à ce qu'il l'ait dit 100 fois. Et là, nous voyons toute la précision de Aïcha radiallahu anha et toute son attention. Elle l'a écouté. Elle a écouté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et elle était capable de nous dire combien de fois le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et ça, c'est un hadith de lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué aux sahaba, aux croyants musulmans, demandez pardon à Allah, sachez que moi, prophète d'Allah, je demande à Allah azza wa jalla pardon au moins 100 fois par jour. Et là, Aïcha radiallahu anha, elle nous explique une des formules d'Allah, maghfirli wa tub alayya, innaka anta tawwabur rahim. Qui est capable de le faire 100 fois? Tout le monde est capable de le faire. Faisons-le avec cœur. Retenons la formule et faisons-le en pensant nos péchés. C'est ce qu'on appelle an-nadam, les remords, première condition pour que le tawbah nasuha soit, pour que le tawbah soit nasuha et accepté. Innaka anta tawwabur rahim, avec raja, avec espoir qu'on s'adresse à celui qui est clément et miséricordieux, et avec azm, l'intention ferme de ne plus répéter ses péchés, qu'Allah nous donne tawfiq de le faire. Deuxième doua que le prophète alayhi salat wa salam faisait, là tout à l'heure on avait un hadith qui est rapporté, subhanallah, par al-Bukhari fil l'adab al-mufrad. Maintenant on a un hadith de Ibn Umar radiallahu anhuma. Il dit كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مره من قبل ان يقوم. Il relate que dans une assemblée, le prophète عليه الصلاه والسلام, avant de se lever, avait dit 100 fois ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور, des termes qui sont proches, ربي اغفر لي wa tub alayya, oh Allah, accorde-moi ton pardon, innaka anta at-tawwab al-ghafur. Et là le prophète alayhi salatu wassalam met en avant les qualités d'Allah en rapport avec le pardon. Combien de fois il avait dit? Également il avait dit 100 fois, mais avec cœur, avec dévotion. Troisième hadith, rajulun min al-ansar, un homme parmi les ansar radiyallahu, il relate que sami' an-nabi alayhi salatu wassalam fi salatin wa huwa yaqul. Il a entendu le prophète de la salat en train de lire le doua Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwab al-ghafur. Le même doua à peu près qu'on a lu 100 marra, hadith rapporté par Imam Ahmed al-Musnad. Le prophète de la salat l'a dit 100 fois. Et là on revient vers cette claque spirituelle en de le tafsir de ثم تتفكروا, réfléchissez, analysez votre salat, analysez la relation réelle qu'on a créée avec Allah à travers cette prière. Combien de fois il nous est arrivé de répéter une formule de tawbah, de le sujoud, dans la prosternation de notre qiyam al-layl? Et c'est vraiment vers ces actions simples là que nous devons essayer de travailler. Tu fais deux unités de prière de la nuit, bas raka'atayn, deux namaz de tahajjud, mais dans ton sujoud, dans ton sijda, lis Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwab al-ghafur, lis cette formule de istighfar 100 fois. Si on n'arrive pas à le faire dans le sijda, on le fait dans le qa'id al-akhira, dans la dernière position assise, à la place de par exemple Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira, on peut remplacer par n'importe quelle autre formule, d'autant plus que c'est une salat qui est nafil, qui n'est pas une salat faraz. Donc on essaie de le lire, mais si on peut le lire 100 fois, notre tashahhud va prendre 20 minutes, certes, mais qu'est-ce qu'on aura gagné? Et en répétant sans cesse la même formule, à un moment donné, il y a quelque chose qui se crée. À un moment donné, il y a une connexion avec le cœur. À un moment donné, on finira par ressentir, Inch'Allah, une certaine émotion spirituelle. Et celui qui arrive à déclencher cette émotion spirituelle et à faire couler une larme en demandant pardon à Allah de le dernier tiers de la nuit lorsque personne ne te voit, Allahu Akbar. En plus du tawbah qui est accepté, en plus de la force spirituelle que tu es en train de créer en toi, ben, on pourra faire partie, Inch'Allah, des personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, parce que parmi eux, Rajulan Dhakarallaha Khalian Fafa'ina, un homme qui a pensé à Allah, qui a pensé à son Seigneur seul, il y a de l'obscurité, sans que personne ne le voit, Fafa'ina, et des larmes coulent de ses yeux, c'est-à-dire qu'il a réussi à créer une relation avec Allah, qu'Allah nous accorde cette qualité, et laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Nous avons travaillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le uswatun hasana. Nous avons pris comme uswatun hasana uniquement tout ce qui est extérieur. Alors aujourd'hui, si j'ai réussi à faire pousser ma barbe correctement, j'en suis fier. Ceux qui le font, alhamdulillah, sunna. Ceux qui ne le font pas encore, sachez que c'était l'habitude de notre prophète alayhi salatu wassalam. Si nous l'aimons, nous devons faire comme lui. Mais au-delà de al-lihya, au-delà de l'apparence extérieur, mais ce prophète qui dans la salat prie, pleure et demande à Allah 100 fois istighfar, n'est-il pas un uswa hasana pour nous? Pourquoi nous ne le prenons pas comme modèle à travers ce ibad, qu'Allah nous donne la possibilité de le faire? Aisha radiallahu anha nous raconte dans un hadith qui est cité dans Sahih Muslim, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukthiru min qawli Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilayh. Des formules simples. Subhanallah wa bihamdi, là on fait les louanges d'Allah. On affirme toute la pureté qui revient à Allah, les louanges qui reviennent à Allah. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Et là il y a la formule de pardon. Des formules que nous devons mémoriser et intégrer et essayer de lire au maximum. Hadith numéro 5. Hadith de. Bon, là, on passe à un sujet un peu décalé, mais qui est quand même nécessaire. On ne fait pas l'impasse, mais Hadith Ubad ibn Samit, radiallahu anhu, dit que j'ai entendu le Prophète lire ce doua. Non, j'ai entendu le Prophète dire Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasana. Celui qui demande pardon à Allah pour chaque croyant et chaque croyante, Allah Azza wa Jal lui accorde. Pour chaque croyant et chaque croyant, c'est-à-dire vivant de ce dunya, à l'instant T, hasana, une bonne action. Voyez la générosité d'Allah et voyez l'importance du istighfar. Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal donne de l'importance au fait de demander istighfar? Tu lui demandes istighfar et demande istighfar pour tes frères et sœurs, pour chaque personne qui est vivante à cet instant, Allah t'accorde un hasana. On continue, là on veut rester dans les formules. Hadith ibn Mas'ud, ce hadith-là, il est rapporté par At-Tabarani, et c'est authentique. Hadith ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui est rapporté par Al-Hakim, et qui est sahih également. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, man qala, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum atubu ilayhi thalathan, ghufirat lahu dhunubuh. Celui qui dit trois fois, combien de fois? Trois fois, et je vais vous demander de le dire. Avec sincérité, avec dévotion, avec implication. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum wa atubu ilayh. Tout le monde le connaît. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu. Et quand tu dis je demande pardon à Allah, alladhi la ilaha illa hu. Celui qui n'a pas d'associé, celui qui n'a pas de sharik. Celui qui n'a personne dit d'être adoré à part lui. Et là, ça nous ramène vers le doua qu'on dit dans la salat. Farfir li maghfiratan min indik. Accorde-moi un pardon qui vient de toi. C'est-à-dire que personne ne peut pardonner à part lui. Ça fait partie de notre tawhid. Et quand on dit, quand on lit le verset, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah. Et là tu dis, Ya Allah, tout ce que j'ai pu faire là comme péché, le seul qui peut pardonner, c'est toi, Ya Allah. Là on se rappelle du hadith qu'on avait cité avant le mois de Ramadan, celui qui se présente devant Allah avec autant de péchés qui peut remplir l'espace entre le ciel et la terre, mais qui s'en remet à Allah, qui demande pardon à Allah, Allah Rabbul Izzah dit, je le reçois avec autant de pardon qui peut remplir l'espace entre le ciel et la terre. Donc tu t'en remets à Allah, tu dis c'est uniquement à toi. Donc il dit astaghfirullah alladhi la, celui qui n'a pas de divinité à part lui. Alladhi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Celui qui le dit trois fois, ghufrat lahu dhunubu, l'intégralité de ses péchés sont pardonnés par Allah. Avec cœur. Et bien sûr, tous les péchés qui sont pardonnés, c'est toujours les sara'ir, les petits péchés. Pour les grands péchés, il y a les conditions, il y a le mal qui a été fait aux gens, il faut aller réparer, ainsi de suite. Ça, c'est un autre mas'ala qui est connu. Donc, cette formule-là aussi, on doit essayer au mieux, maximum, de le mémoriser. Je fais une demande. Soit c'est entendu par ceux qui sont présents, soit par moyens techniques interposés, ceux qui vont écouter le dars. On nous souhaiterait qu'il y ait une personne qui est attentive, vous êtes tous attentifs bien sûr, qui pourrait parfois nous faire un résumé des points essentiels ou des phrases clés des interventions, par écrit. Ça nous permettrait de les diffuser et ça serait profitable à ceux qui n'ont peut-être pas le temps d'écouter un audio. Et également, quand il y a peut-être quelques formules comme ça, si quelqu'un peut les retenir et les noter, et puis nous on pourrait les envoyer aux gens par WhatsApp, ainsi de suite, ça serait extrêmement profitable. Et celui qui l'a fait, subhanallah, il aura la récompense de toutes les personnes qui vont lire ces doigts. Souvent on donne des formules de doigts, Dariyad al-Salihin avait donné une formule de doigts à lire avant de dormir, mais après on zappe, on ne pense pas à l'écrire, mais celui qui peut le mettre par écrit, subhanallah, l'envoyer, ça serait, inshallah, profitable. On continue. Voilà, on a un hadith un peu long sur le pardon. Ça nous ramène un peu vers l'introduction avec les commentaires. Autre doua, autre formule, hadith numéro 9. Hadith dans lequel il est relaté, Dakhala, après c'est le dernier pour ce soir, Dakhala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-masjid. Ça m'est entré dans la masjid nabawi. Fa'idha huwa bi rajulin qad qada salatahu. Le prophète sallam voit un sahaba qui avait complété sa salat. Qad qada salata wa huwa yatashahhad. Ah, pas qu'il a complété, il était en train de compléter sa salat. Wa huwa yatashahhad. Il est en train de lire le tashahhud. Et après le tashahhud, il y a les doua. Et nous, le doua qu'on connaît, c'est Allahumma inni dhalamtu nafsi. Et ça va venir aussi. Wa huwa yaqulu. Et la personne disait d'une voix qui était audible. Ça, on peut le faire si on ne gêne personne, bien sûr. Ça montre l'implication, le cœur. Comment il le disait avec cœur? Il disait, Allahumma, inni as'aluka ya Allah, ya Allah, al-ahad al-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il reprend les versets de Sourate l'Ikhlas. Il reprend les noms d'Allah, qui ramène vers l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il implore Allah par ses noms. Antaghfir li dhunubi. Ya Allah, je te demande, toi qui es l'unique, qui n'a pas enfanté, qui n'a pas de parents, qui n'a pas d'ascendant, de descendant, et il met en avant les qualités d'Allah en rapport avec le tawhid, et il demande Antaghfir li dhunubi. Je te demande de pardonner mes péchés. Innaka antal ghafur rahim. Parce que Ya Allah, c'est toi qui es pardonneur et clément. Formule simple. Demander à Allah par ses noms, mettre en avant ses péchés, pardonne mes péchés parce que tu es le pardonneur. Le prophète alayhi salat wa salam a dit qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Il a testé trois fois que cette personne a eu l'acceptation de son pardon. Donc sinon on peut dans nos nawafil de le dire à haute, pas à haute voix, mais à voix audible. Pourquoi à voix audible? Parce que tu vas l'entendre, tu vas le dire avec cœur. Et idéalement de le tahajjud, dans le qiyam ou l'ayl, lire ce doua ou d'autres doua, mais avec vraiment, avec cette implication, ça nous sera extrêmement profitable. Et on clôture avec le doua que nous connaissons. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira. Wala yaghfiru dhunuba. Après il y a différentes variantes. Wa inna fainahu la yaghfiru dhunuba. Wala yaghfiru dhunuba, c'est la même chose. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. فاغفر لي مغفرة من عندك توحيد أنكو إلا أنت توحيد من عندك توحيد وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Et la simple nom. Et juste pour commenter ce doua, on a amené un livre spécial, le commentaire de Hisn al-Muslim, qui est extraordinaire. Chaque doua commenté, expliqué, malheureusement c'est pas encore traduit en français, peut-être qu'un jour inshallah. Et l'explication du Allahumma inni dhalamtu nafsi, c'est nécessaire pour parfaire nos formules dans nos salats. Donc ça, on va garder pour la prochaine fois, pour ne pas bâcler, pour ne pas le résumer, parce que ça nécessite un peu plus de temps. Le Allahumma inni dhalamtu qu'on récite dans chaque salat, essayons de le dire avec concentration, avec dévotion, c'est là qu'on crée réellement notre relation avec Allah, à travers les choses simples. Ce n'est pas pour rien si dans un hadith Qudsi, notre Seigneur nous rappelle que jamais un, le sens du hadith Qudsi, que jamais un ibad, un serviteur, ne se rapprochera autant d'Allah, mimmaftaratuhu alayhi, que par les actions qu'Allah a légiférées, que par les actions qu'Allah a rendues obligatoires. C'est par ces liens-là, ces cinq plis d'islam, que tu crées réellement ta relation avec Allah. Ne va pas chercher l'extraordinaire. Ne va pas chercher ce qui est inaccessible que toi seul pourras peut-être faire. C'est dans ce qui a été rendu cinq fois par jour obligatoire, c'est là-dedans qu'il y a la clé, à condition d'y mettre du cœur, qu'Allah ouvre nos poitrines, ouvre nos cœurs, et lui donne la possibilité d'arriver à ce degré, inshallah, de spiritualité. Au matawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana, an alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair.